Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Vosges.
J'ai grandi en Vosges et j'ai l'impression que les choses ont bien changé. Le nombre d'habitants, les paysages, le tourisme, les paysans. 38 ans, c'est bien peu, mais comment a-t-on si vite changé? Tout avait l'air immuable. Est-ce une constante de toutes les enfances? Nous chantions ensemble et nous avons dû nous confiner. Alors j'ai eu envie de faire parler nos aînés. Comment c'était quand ils étaient petits? Comment le monde a changé? Ont-ils des regrets? Sont-ils heureux du monde d'aujourd'hui? Voici quelques partages. Merci à eux. Aujourd'hui, on retrouve Bernard qui nous parle de la société d'après-guerre dans laquelle il a grandi. Et nous donnerons la parole à Odile, qu'il a rencontrée à Aix-les-Bains et qui nous parlera de son installation à Doucy et d'un gros travail qu'elle a fait sur le patois de Saint-Jean-d'Arvais. Alors, tu nous parlais, Bernard, de ton grand-père qui fabriquait des sabots.
Oui.
Et alors, comment ça se passait pour les chaussures à cette époque-là?
Je ne peux pas dire exactement comment ça se passait parce que je n'ai pas connu mon grand-père. Mais apparemment, c'était de... Il creusait le bois pour pouvoir faire les sabots pour les paysans de la région.
Toi, tu n'as pas, t'en as pas
j'ai
eu
pas
quand tu étais enfant même.
J'ai pas eu. Non, ils sont morts très tôt. Mes grands-pères sont morts en 1936 de mémoire.
Et après eux, personne n'a repris le métier.
Alors
le
après métier eux, non. Non, non.
Et tu parlais de ta mère, alors les femmes ont eu le droit de vote
en 45. Exactement, c'était le général de Gaulle qui leur a donné ce droit.
Est-ce que tu as l'impression que... Enfin, comment l'a vécu ça ta mère? Est-ce que tu as une idée, même si tu étais petit à l'époque, est-ce que tu en as parlé?
Non, on n'a pas tellement parlé, mais bon, ouais, je pense qu'elle le trouvait bien, puisqu'elle n'a jamais loupé
une élection depuis. Parce que du coup, tu disais que ta mère travaillait aussi.
Oui, elle travaillait. Depuis 1900, avant 36, en 34, par là, elle travaillait déjà.
On imagine que les femmes étaient beaucoup au foyer, s'occupaient des enfants.
Oui, mais c'était...
Mais c'était pas une réalité du terrain.
C'était pas toujours la preuve. Parce que même ma grand-mère, elle continuait à travailler quand mon grand-père est mort. Elle était caissière chez Eudebert, rue Danton, à Paris. Et ensuite, elle a été caissière dans le 15e arrondissement, dans une entreprise qui était épicerie et tout ça.
Même si elle n'avait pas forcément besoin de travailler, si ton père travaillait de son côté.
Oui.
Et tu disais que tu étais venu à Aix-les-Bains parce que ton entreprise t'avait proposé de venir travailler là. Est-ce que tu connaissais un peu la région?
Alors, je connaissais un peu la région parce que maman faisait des cures à Aix. Donc, on logeait à Tresserve. Et je connaissais donc, on allait pas mal en montagne autrement.
Comment ça se passait, les voyages?
Les voyages, les premiers temps, c'était par le train. Et puis, la première voiture que mes parents ont eue, c'était une location. Et pour les vacances, on était partis en 4 chevaux à l'époque.
Ils louaient, alors ça veut dire qu'il avait le permis, ton père avait
mon père avait son permis de conduire et maman aussi.
D'accord, oui.
Tous les deux, ils l'avaient.
Donc, même s'ils ne s'en servaient pas au quotidien.
Oui, et même, maman l'avait eu du premier coup, tandis que papa, il a dû repasser une fois. Mais elle n'aimait pas tellement conduire. Mais enfin, bon, papa aimait bien conduire. Moi, j'ai passé mon permis en 63, donc...
Et donc là, ils avaient loué une voiture et
ils partaient
600 km. Voilà,
sans problème.
Sans avoir l'habitude de conduire spécialement au quotidien.
Ah non, mon père utilisait un peu la voiture dans son travail. Mais autrement, parce que quand il était, après avoir été à la Compagnie nationale du Rhône, on lui a proposé de passer à l'EDF. Et là, il s'occupait à l'époque du SCATEX, c'est-à-dire c'était le service de gestion des voitures de EDF. Donc, mais autrement, les vacances. Après, leur première voiture, ils l'ont eue en 1900, je ne sais plus, dans les années 60. Oui, dans les années, je me souviens plus exactement, c'était une Dauphine. Mmh. Alors là.
Et quel sentiment, du coup, à conduire ? Est-ce que c'était un grand sentiment de liberté ? Est-ce que c'était plutôt une inquiétude ?
Bah c'est... Non, pas d'inquiétude, sinon il ne l'aurait pas fait. Oui. S'il conduisait, c'était pour le plaisir. Donc, et puis pour être, avoir la possibilité d'aller se promener le dimanche, de sortir un peu. Mmh.
Aujourd'hui, ça paraît un peu fou, puisque la voiture, ça fait vraiment partie de notre quotidien à tous. Et c'est vrai que mon grand-père raconte sa première voiture, c'était quelque chose d'exceptionnel à l'époque. Oui. Et on a oublié, alors que c'est pas si loin que ça.
C'est exact.
Et le changement dans la vie.
Les voitures, je me souviens, mes parents avaient un box, donc avenue Émile Zola, parce qu'on avait un appartement, on rentrait rue de la Convention, et à la suite de quoi, on traversait une cour et on se retrouvait sur l'avenue Émile Zola, au-dessus du métro. Et mes parents avaient loué un box pour pouvoir mettre la voiture. Et là, tous les samedis, papa allait nettoyer la voiture. Avec...
Qui nettoie sa voiture toutes les semaines aujourd'hui ?
Oui.
C'était précieux, du coup.
Oui, mais ça entretenait, c'était bien.
Et le téléphone ?
Alors, le téléphone, c'est pas difficile. Le téléphone, nous ne l'avons pas eu. Je suis parti au service militaire, on n'avait pas encore le téléphone.
D'accord.
Et je suis parti en 64.
Comment ça se passait, alors, du coup, les gens qui habitaient loin, comment, on était peut-être plus proches en famille, entre amis, on n'avait pas forcément de relations éloignées.
Pour les relations, souvent, c'était écrire. Pour les réservations d'hôtels, quand ils voulaient, c'était écrire.
Il fallait bien se décider à l'avance.
Oui, exactement. Et puis, autrement, pour les relations, il y avait le téléphone qui était dans la rue. Alors, à la limite, s'il y avait une urgence ou que ce soit, on pouvait... Mais c'était comme ça.
Oui, pour téléphoner au secours.
Ah oui, oui.
Il fallait aller dans la rue, il y avait des cabines dans la rue.
Oui, dans la rue, ou alors il y avait, en bas de l'immeuble, il y avait un café qui existe encore, où on pouvait téléphoner. Donc,
Et comment ça se passait ? Les gens n'avaient pas envie d'avoir spécialement cet équipement, ou c'était pas techniquement possible, ou est-ce que c'était trop cher ?
Alors, déjà une chose, techniquement, c'était pas possible. C'était un immeuble... tout en pierre de taille, qui datait de Mathusalem, très bien entretenu, mais il n'y avait pas l'ascenseur, il y avait 7 étages, il y a encore 7 étages, on était au deuxième étage, on avait des voisins avec qui on s'entendait très bien, dont le papa était au 7e et eux, ils étaient au 3e, mais le papa, il montait tous ces étages systématiquement.
Et du coup, c'était pas forcément évident d'installer. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, l'installation du réseau téléphonique.
Alors là, je peux pas vous dire comment ça s'est passé parce que j'étais plus. Puis après, mes parents sont partis en 68. Ils sont partis à Nice. Ils ont pris leur retraite à Nice.
Et le fait qu'aujourd'hui on est dans l'instantanéité, facilement, avec les téléphones notamment, ça a vraiment changé notre rapport au temps et aux autres. Comment toi tu vis les choses ? Tu trouves que c'est plutôt pratique ou c'est envahissant
Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est pratique, mais il ne faut pas se laisser envahir. Moralité, il faut faire comme si on ne l'avait pas parfois.
Pas se laisser déborder.
Non, mais il faut reconnaître que maintenant, les gens sont tributaires du téléphone. Si tu n'as pas ton message tous les jours, ça ne colle pas. Alors qu'à l'époque, on prenait du recul et puis on...
On se sentait peut-être un peu moins indispensable.
Oui, oui parce que là...
On ne se fait pas envahir par plein de contraintes.
Exactement.
On a l'impression que la vie était plus calme, du coup, grâce à ça.
Certainement, les gens étaient moins pressés, sauf aux heures de pointe dans le métro. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas dû changer, je pense pas. Mais d'une façon générale, les gens étaient plus pondérés.
Et quand tu es arrivé à Aix-les-Bains, du coup, c'est là que tu as rencontré Odile ?
Alors, non.
Ah.
Je n'ai pas rencontré Odile à cette époque-là. Odile, je l'ai rencontrée en 1991 parce que nous faisions partie de l'ensemble de Richard Kérol à Aix-les-Bains, donc chœur et orchestre.
Alors Odile, donc tu disais que tu habitais à Aix-les-Bains.
Oui, moi j'ai toujours vécu à Aix-les-Bains, sauf ma période d'études où j'étais à Lyon. Mais donc là, j'étais revenue à Aix-les-Bains et effectivement, on s'est rencontrés en chantant. Et donc, on faisait beaucoup de montagnes, on faisait partie du club alpin français à Aix-les-Bains. Bernard a été président, moi j'ai été secrétaire. Donc avant, on faisait beaucoup de montagnes et quand on a eu plus de responsabilités, on a fait de l'administratif et plus tellement de montagnes.
C'est donc, le problème.
Voilà, donc on a eu envie de changer un peu les choses, on a fini par tout arrêter et on est venu s'installer ici. Donc, les premiers temps, on vivait ici moitié de l'année à peu près. On venait tous les week-ends, les vacances. Et puis, les changements d'heure, voilà. Je travaillais à Chambéry pendant la belle saison. Et puis, au mois de novembre, on faisait la montagna et la démontagna, quoi, comme les vaches.
Et vous aviez choisi Doucy un peu par opportunité sur un...
Alors, on avait cherché un peu terrain. Tous azimuts. Mm-hmm. Mais on n'avait pas trouvé quelque chose qui nous enthousiasmait vraiment. C'était bon. Et puis, il y a une personne qui faisait le ravalement de notre façade à Aix-les-Bains, qui habitait à Saint-François de Sales. Et donc, il nous a dit, vous cherchez quelque chose, et dans un petit journal, j'ai vu un petit article, il y a un terrain à vendre, on est venu voir, et puis voilà.
Au cul du bois, du coup.
Voilà.
Le point le plus haut des Bauges, ou presque, enfin, pour les villages.
Peut-être, je ne sais pas si c'est le plus haut. Oui, ça doit être un des plus hauts.
Ça ne doit pas être loin,
oui.
Et du coup, sans regret.
Ah oui, sans regret, parce que... non, la vie est trop folle là maintenant. On a besoin de prendre du recul et on est bien dans un endroit
au calme.
Plus isolé, oui.
Et alors, est-ce que c'est pas trop isolé des fois ?
Non. Si on a besoin d'autre chose, on peut le trouver sans problème. C'est le calme qui est le plus dur à trouver.
Et vous êtes arrivé en quelle année du coup dans les Bauges ?
Mais ici, 2002. Puisqu'on a fait construire, donc voilà, en 2002, on s'est installé.
Vous avez été bien accueillis globalement ? Comment ça s'est passé ?
Oui, dans l'ensemble, bien. Bon, il y a des gens qui sont... Bon, les gens sont parfois un peu réfractaires. Il y avait une personne qui était habitée en bas, qui était très, très, très corpulente, qui était sur son tracteur. Mais pour lui, on a toujours été les étrangers. Mais bon, ça, Odile Dubois qui habitait là, qui venait d'un autre village, elle a toujours été aussi l'étrangère, oui. Même si elle a passé sa vie et qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'ici. Donc, c'est vrai que les gens ont beaucoup de recul, mais finalement, c'est pas de l'indifférence. Je pense que, bon, voilà, c'est comme ça, on a ses marques, et puis voilà, chacun respecte l'autre, et c'est tout. Donc, nous, voilà, on a dit aux gens, on veut pas empiéter, on est là, si vous avez besoin de nous, on est à votre disposition, mais bon, on peut chacun chez soi.
Et ça se construit un peu sur Doucy, là, j'ai vu qu'il y avait d'autres terrains à vendre.
Oui, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a même un gîte qui est en train de se construire.
D'accord, ça va vous faire des voisins un peu.
Oui.
Vous serez moins au calme.
Oui, c'est dommage.
C'est difficile, regardez sa place à soi.
Oui, tout à fait. Et ben ici, les gens sont très, très attachés à ça. Ils n'ont pas envie qu'on vienne les embêter.
Et du coup, toi, tu as travaillé, tu disais, sur le patois à Saint-Jean-d'Arvey.
Oui, voilà, parce que je faisais des études de lettres.
D'accord.
Alors, lettres classiques, et puis j'ai bifurqué vers tout ce qui était plutôt linguistique, grammaire, plutôt que littérature, voilà. Ça m'intéressait davantage l'aspect plus, pas scientifique, mais mathématique, enfin voilà, plus concret, disons. Et comme je faisais mon mémoire et j'avais différentes solutions, et ça m'intéressait de faire cette démarche, parce que j'en avais un petit peu assez du monde artificiel dans lequel on vivait comme ça. Et c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses. C'était très, très enrichissant de rencontrer ces gens, de parler avec eux. C'était des gens très simples, puisque c'était des gens de la montagne qui sont généralement agriculteurs. Je réfléchis parce que c'est un peu loin. Oui, ils avaient tous été plus ou moins agriculteurs, donc ils n'avaient pas d'instruction, mais ils étaient quand même, ils s'étaient quand même instruits par eux-mêmes. Ils avaient, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est une philosophie qu'on n'imagine pas quand on voit les choses de loin. Et ça changeait vraiment du monde artificiel qu'on connaît autrement.
Alors, qu'est-ce que tu entends par philosophie ?
C'était la philosophie de la vie, des choses toutes simples, mais une gentillesse, voilà, le fait de dire des choses simples, vraies, profondes. Mmh. Et pas compliqué.
Pas compliqué, mais pleine de bon sens, comme on pourrait dire.
Oui.
Et comment ça se passait du coup ? Eux, ils ont parlé pas toi, ils parlaient encore pas toi ? C'était des gens d'un certain âge, j'ai sélectionné les gens.
Oui, oui, il y avait des gens, ils étaient quand même assez âgés. Là, il faudrait que je me replonge dans tout ça, j'ai oublié depuis le temps.
C'était dans les années 80 que tu as fait
80,
ça, non ?
C'est ça, oui. Donc, c'est un peu loin. Mais j'avais sélectionné effectivement les gens avec le maire qui m'avait introduite auprès de ceux qui étaient intéressants pour mon travail. Et donc, il parlait le patois, bien sûr. Donc, il parlait au quotidien, mais bon, il parlait bien aussi français. Et moi, je ne le parlais pas parce que je n'avais pas eu l'habitude de le parler, sauf qu'à la maison, j'entendais, ma tante disait beaucoup de mots patois, mais comme ça, c'était un peu une fantaisie, tu vois. Parfois, c'était un peu aussi ironique, mais bon, on entendait encore quand même pas mal de choses. Et donc, j'ai découvert avec eux tout ça.
C'était le même patois entre Aix-les-Bains et Saint-Jean-d'Arvès ? C'est une question peut-être un peu idiote.
Mais... C'est la même souche, disons. Mais les patois varient d'un village à l'autre. Il y a des différences entre Thoiry et Saint-Jean, c'est pas pareil. Enfin, voilà, il y a des spécificités, même si ça fait partie d'un grand ensemble où les mots, le franco-provençal, où les structures, les mots sont les mêmes à peu près. Mais après, il y a des différences de prononciation, il y a des différences même au sein d'un village. Les prononciations peuvent un peu varier selon les cas, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même le même patois.
Les gens pouvaient se comprendre.
Oui.
Et du coup, comment ça s'est passé ? Et moi, j'ai pas du tout d'informations là-dessus. Comment ça s'est passé ? Il y a un moment où le français a été obligatoire, on a interdit aux gens de parler patois,
tout à fait.
À l'école notamment.
Oui, on les empêchait de parler patois, absolument.
Et ça, c'est en quelle année ?
Alors là, je me souviens pas.
Ça avant-guerre ?
Oui, c'était avant-guerre, parce qu'il faudrait que je reprenne les choses. Là, je dois dire que c'est un peu loin, tout ça.
Parce que ça nous paraît loin. Moi, je n'ai jamais entendu parler mes parents patois. Mm-hmm. Mes grands-parents, mon grand-père était de Normandie et soldat dans le sud. Il a rencontré ma grand-mère dans le sud, mais parce que justement, ils pouvaient parler la même langue. Ils pouvaient parler français, mais sinon, ils ne se seraient peut-être jamais pu se comprendre entre le nord et le sud du pays.
Oui.
Donc, et en même temps, c'est pas si loin. Voilà, nos grands-parents, c'est encore accessible. Mmh. Mais moi, j'ai jamais entendu parler patois. Et c'est une autre époque, j'ai l'impression. Je sais pas si encore autour de nous, des gens parlent entre eux.
Je pense que non. Bon, un petit peu, quelques mots par-ci par-là, mais s'exprimer vraiment totalement en patois, j'en doute.
Et du coup, dans ces rencontres, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres, les rencontres que tu as faites à cette époque-là ?
Ah oui, c'était des gens vraiment très, très attachants, oui. Moi, je les ai vus très souvent, en plus, j'y allais très, très régulièrement, je les interviewais, j'allais même, maman montait avec moi, je me souviens. Et non, c'était vraiment des gens très touchants, oui.
Comment il s'appelle ton travail exactement, le titre ? Tu saurais nous dire ?
Là,
on a deux énormes livres qui sont sur la table.
Je ne sais pas s'il y a un titre.
Est-ce que c'est accessible ? Est-ce que s'il y a des gens qui sont intéressés pour
lire ? Oui. Sauf que c'est quand même très technique. Là, bon, tu vois, là, ici, j'ai, par exemple, je tombe sur une page, les dessins des outils avec le nom.
Avec le nom des outils en français et en patois.
Voilà, après,
c'est comme un dictionnaire.
Oui, c'est ça. Puis à la fin, il y a des chants, des contes, enfin, des choses comme ça. Voilà, ça, c'est le chant dont je te parle, là. Le chant de Noël, je ne vois pas à l'envers, mais c'est le chant de Noël sur Venez Divin Messie.
Tu saurais nous le lire ou pas ? C'est compliqué de le lire ?
Je vais accrocher un peu parce que...
Ouais.
En plus, c'est une transcription phonétique, donc il faut que je me réhabitue parce que depuis le temps, j'ai oublié.
D'accord.
À l'époque, je nageais là-dedans, mais maintenant, c'est moins instinctif.
Alors, on essaye, Bernard, ouvre le livre pour essayer de trouver une page. Tu nous dis...
Oui, c'est bon, je peux y aller.
Alors, du coup, tu nous chantes un petit extrait
en
patois.
Alors, c'est Noël des bergers de Saint-Jean d'Arvais sur l'air de base de Venez Divin Messie.
Super, à toi.
Les barges folato vont s'acquintaner pépételéem. À Colin Maliard Zoyé vont drépi passo le thé. On en jettera quel eau de za. Bonzor mignonietto panquo propre folato. Vénive le Messie qu'evni monde cette année. Le petit de Maria. Pléiade tiède pia.
Bravo.
Dans la traduction.
Ouais.
Les bergers folâtraient une certaine nuit à Bethléem. À Colin Maillard, ils jouaient pour passer le temps. Un ange entra qui leur dit « Bonjour mes enfants, n'est-ce pas encore assez joué ? Venez voir le Messie qui est venu au monde cette nuit, le petit de Marie plié dans des langes. » Et puis
bravo.
Après, ça continue, il y en a 8 couplets.
Waouh. Il y avait de quoi faire.
Ouais.
Super. Et les gens étaient globalement plutôt enthousiastes de partager avec toi
leur connaissance. Ils aimaient beaucoup, bah, ça les valorisait. C'est vrai qu'ils se sentaient un peu plus reconnus, disons.
Ouais, super. On interviewerait d'autres personnes là, pour savoir un peu quand est-ce que le patois a perdu de la place dans notre culture. C'est quand même un sujet
début
intéressant.
Du siècle, début 1900-1950.
Ouais. Et puis, qu'est-ce que vous auriez envie de... Si vous comparez la vie de votre enfance et puis celle que vous pouvez voir aujourd'hui des petits-enfants ou des enfants qui auraient 10 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ou de transmettre si on pouvait donner un objet ou une valeur ou quelque chose qui vous paraîtrait indispensable pour ne pas se perdre dans notre société
D'être de respecter soi-même, les gens, d'être le plus autonome possible, de ne pas se laisser influencer outre mesure, de garder du recul.
D'accord. Et toi, Bernard, il faut que tu te rapproches du micro. On a un micro pour deux, alors. Voilà.
Alors, moi, c'est dans le même style. La prise de responsabilité, mais à tout point de vue, c'est-à-dire aussi bien quand on fait quelque chose de mal que quand on fait quelque chose de bien. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de superficiel. Et on ne va pas dans le profond des choses.
Ah, attention à ne pas se perdre alors.
Oui, exactement.
D'accord.
Donc.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Bernard et Odile. Et puis, à bientôt.
À bientôt.
La prochaine fois, on rencontre Jean Carret à La Compote, qui nous parle d'agriculture, d'alpage, de déchets et de bien d'autres choses de son enfance. Ces témoignages ainsi que les précédents sont disponibles en réécoute sur radioalto.info pour ceux qui ont internet. Vous pouvez aussi venir à la radio, on vous grave un CD ou on vous enregistre les émissions sur cassette pour écouter chez vous. À bientôt sur Radio Alto 94.8.